Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à l'un des plus grands réalisateurs au monde, Clint Eastwood.
Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça.
Qui c'est, nous, connards ?
Smith, Wesson et moi.
Et comme d'habitude dans Clap, on va vous raconter son œuvre, mais sous l'angle sociétal. Que dit-il de l'Amérique dont il a dressé le portrait, film après film, depuis 60 ans ? Ses névroses, ses héros, ses espoirs, on vous dit tout, à l'occasion de la sortie d'un coffret qui regroupe ses plus grands films et de la diffusion sur Canal+, de son dernier long-métrage, Le cas Richard G. Wells. 14h30, vous avez rendez-vous avec les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Joël Dicker, l'écrivain le plus vendu en France l'année dernière, qui a accepté de répondre à nos questions. Alors, par exemple, quel est son meilleur souvenir en salle ?
Et c'est ça, notre race est supérieure. Et justement, commençons par une chose apparemment insignifiante entre toutes. L'oreille. Regardez-moi ça. Regardez la perfection de cette oreille.
Et vous aurez reconnu La vie est belle, qui l'a fait autant rire que pleurer d'ailleurs. Pour découvrir la suite de ce questionnaire de Proust version cinéma signé Joël Dicker, rendez-vous à 14h30. Et puis, juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes. Aujourd'hui, nous discuterons d'Antoinette dans les Cévennes, qui arrive en DVD, de Seules les Bêtes sur MyCanal, de Malcolm et Marie sur Netflix et de La Vérité avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Voilà pour le programme de Clap, votre émission cinéma qui démarre tout de suite avec notre récit consacré à Clint Eastwood, portraitiste de l'Amérique.
Europe 1. Le récit.
Aujourd'hui, Clint Eastwood a 90 ans. Il vit dans son ranch californien et continue à tourner un film chaque année ou presque. 60 ans de carrière, de travail, de passion, il en parlait en 2009 au micro d'Europe 1.
J'adore travailler. Le cinéma, c'est ma vie, j'adore faire cela. Et je crois que quand on travaille, qu'on aime son travail, il faut continuer jusqu'au bout.
Si on revient un petit peu en arrière, Clint Eastwood commence par incarner au cinéma le Cowboy, cette figure mythique de l'histoire américaine, de l'expansionnisme, de la conquête du Grand Ouest. Peut-être malgré lui d'ailleurs, il joue donc des personnages qui incarnent cette Amérique individualiste, conservatrice même. Rappelons-nous de lui dans le rôle du bon du film de Sergio Leone, Le bon, la brute et le truand. Clint Eastwood a alors 36 ans.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Et c'est donc tout naturellement que lorsqu'il passe derrière la caméra, Clint Eastwood réalise des westerns, L'homme des hautes plaines par exemple, dans lequel il joue l'étranger, c'est comme ça qu'il se fait appeler, un homme au passé mystérieux, tout de noir vêtu, qui débarque dans une ville du sud-ouest américain. Les habitants le supplient de les protéger de l'attaque de trois bandits, il accepte mais à ses conditions.
C'est une gentille petite ville et ses habitants sont de braves gens. Oh mon cher ami, nous aimerions bien que vous nous veniez en aide.
La seule chose dont vous ayez besoin, shérif, c'est d'avoir un petit peu de cran. C'est pas de moi qu'on a besoin.
Très vite, dès 1972, Clint Eastwood fait parler de lui, notamment lorsqu'il incarne l'inspecteur Harry Callahan dans le film éponyme, un flic macho, brutal, connu pour ses méthodes musclées, et qui va devoir retrouver cet homme qui réclame à la police de San Francisco $200,000, faute de quoi il commettra un assassinat par jour. Là encore, l'inspecteur arrive à régler cette affaire, mais à sa manière.
Je n'ai jamais fait d'arrestation courante.
Et vous avez le cran de venir concourir pour une place d'inspecteur ? Qu'est-ce que vous croyez que c'est, la police ? Un salon où on papote ? J'aimerais savoir ce que l'agent Moore fera quand elle aura un revolver sous le nez et qu'on lui dira « Allonge-toi par terre, putain !»
Vous essayez délibérément de faire recaler cette candidate, Callaghan.
Eh ben, il vaut mieux qu'elle échoue. De cette façon, elle garde son cul à l'abri.
Et déjà à la sortie du film, certains y voient la promotion d'un héros fasciste, sans foi ni loi. C'est cette image qui va coller à la peau de pas mal des héros de Clint Eastwood. D'autant que certains y voient une part de la personnalité du réalisateur. Car depuis des années, Eastwood se revendique fervent conservateur et patriote. D'ailleurs, à la fin des années 60, il soutient la candidature de Richard Nixon et sa campagne au slogan équivoque « Law and Order », la loi et l'ordre. Cette fermeté qui affiche l'ambition de porter la voix des invisibles, de la fameuse majorité silencieuse. Oui, Trump refera le coup quelques décennies plus tard, on y reviendra. D'ailleurs, en 2012, Clint Eastwood fait campagne pour Mitt Romney, tentant de ridiculiser Barack Obama lors de la convention républicaine. Clint Eastwood, écoutez-le, s'adresse alors à une chaise vide.
Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites de toutes les promesses que vous avez faites? Qu'est-ce que vous répondez aux gens? Comment ça, la ferme? Non, je ne vais pas la fermer. Il y a tant de choses à faire et peut-être qu'il est temps que vous mettiez un peu de côté et que vous laissiez Mitt Romney reprendre les choses en main.
Et cet « angle » entre guillemets, Clint Eastwood va l'utiliser dans tous ses films, ou presque. Ses héros sont de fervents patriotes, virils, comme dans « Le Maître de Guerre » sorti en 1985, film qui, il faut bien le dire, glorifie l'armée à travers le personnage de cet ancien marine participant à l'invasion de la Grenade en 1983. Plus récemment, en 2014 par exemple, sort « American Sniper », l'histoire vraie d'un tireur d'élite de l'armée américaine glorifié pour avoir tué 255 Irakiens. Et encore, il ne s'agit que des morts constatées par des témoins. Et même si certains l'accusent de glorifier le fait de donner la mort, et l'armée d'ailleurs, le film cartonne au box-office américain et français, avec plus de 3 millions de spectateurs dans notre pays.
Vous n'êtes pas inquiet au sujet de ce qui pourrait se passer?
Je suis prêt à rencontrer mon créateur et à répondre de chaque tir que j'ai effectué.
Un homme en âge d'être soldat avec un portable qui observe le convoi, à toi.
Si tu penses qu'il signale des mouvements de troupes, tu as le feu vert. À toi de voir. Terminé.
Et c'est donc très logiquement que quelques années plus tard, Clint Eastwood s'engage en faveur de Donald Trump. Même si depuis il a changé sa position, il fut l'un des rares artistes à soutenir publiquement le futur président, dont il disait, je cite, « Donald Trump tient quelque chose car tout le monde est secrètement fatigué du politiquement correct ». Nous sommes d'une génération de lavettes, tout le monde marche sur des œufs. Et quand j'ai fait Gran Torino, même mon associé m'a dit « c'est vraiment un bon scénario, mais il est politiquement incorrect ». Voilà sans doute la clé. Être politiquement incorrect, c'est l'ambition suivie par Clint Eastwood tout au long de son œuvre. Il n'a pas peur de choquer, d'être clivant, et met d'ailleurs souvent en avant ceux qui se disent invisibles, par exemple des hommes blancs, pauvres, qui se méfient, c'est le moins que l'on puisse dire, des minorités. Oui, vous avez raison, c'est l'électorat de Donald Trump, qu'Eastwood n'hésite d'ailleurs pas à élever au rang de héros. Prenez Gran Torino par exemple, Clint Eastwood y joue Walt Kowalski, vétéran de la guerre de Corée, amer, bourré de préjugés. Il vit reclus dans un quartier asiatique, ces asiatiques qu'il méprise d'ailleurs, jusqu'au jour où un ado du quartier tente de lui voler sa caisse, sa précieuse Ford Gran Torino, un film qui parle du racisme ancré aux États-Unis.
Foutez le camp de chez moi!
T'es chelou, l'ancêtre. Allez, vas-y, va te coucher.
Je t'explose ta tronche de citron pressé et après je rentre chez moi pour rompiller comme un bébé. Compte là-dessus. En Corée, les enfoirés de Niakoué de ton espèce, on les empilait pour s'en faire des remparts.
Allez, viens, mec, on se casse.
Et à l'ouest, le vieux connard.
Tirez-vous de chez moi.
Alors, dans Gran Torino, comme dans beaucoup d'autres films d'ailleurs de Clint Eastwood, les héros, quelque peu caricaturaux, évoluent quand même au fil de l'histoire. Ils deviennent plus subtils qu'ils n'y paraissent, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité. Mais arrêtons-nous maintenant sur le physique de Clint Eastwood. Ça a son importance, car même dans son physique, il dégage une forme de conservatisme. Grand, fin, avec ce regard perçant, de prédateur presque. Un physique qu'il utilise justement dans Sur la route de Madison par exemple, ce drame très sensuel dans lequel il séduit Meryl Streep. Parce qu'il sait aussi créer des personnages féminins forts, comme dans L'Échange avec Angelina Jolie, ou dans Million Dollar Baby avec Hilary Swank, on y reviendra. D'ailleurs, en 2009, lorsque Nicolas Sarkozy le fait commandant de la Légion d'honneur, il en plaisante.
Le type qui a fait la route de Madison, non, c'est énorme. Bon, qu'est-ce que je dis, c'est, bon, ben, c'était pas dans le discours, mais bon. En plus, vous avez été élu. Franchement, je préfère que vous ayez choisi les États-Unis quand même. Parce qu'avec le physique qui est le vôtre, là ça devenait injuste. Hein.
C'est vrai que la nature fait son œuvre, mais je me sens encore vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment géant. Comme commandeur de la Légion d'honneur, je vais aller me promener dans les rues de France et rouler des mécaniques.
Alors plus récemment, Clint Eastwood a décidé de raconter dans ses films l'histoire de héros ordinaires. Dans American Sniper, on en a parlé, mais aussi en août 2015, par exemple, après l'attentat raté du Thalys, deux militaires américains ont appréhendé un homme surarmé qui voulait commettre un attentat dans le train Amsterdam-Paris. Clint Eastwood achète aussitôt les droits. Le film sort début 2018 avec une presse très mitigée.
Tiens-lui les bras, j'arrive pas. Je vais lui faire un étranglement.
Les mecs, il s'est fait tirer dessus. Merde, il y a un mec qui saigne.
Occupe-toi de lui. Vas-y.
Une presse, je le disais, très mitigée, mais qui va petit à petit retrouver un intérêt pour le cinéma d'Eastwood. Lors, par exemple, de la sortie de La Mule, puis du cas Richard Jewell, disponible depuis quelques jours sur MyCanal, là encore adapté d'une histoire vraie. Eastwood y raconte la vie gâchée d'un vigile des IO d'Atlanta de 96 qui va alerter sur la présence d'une bombe, faire évacuer le public, puis être accusé, à tort, d'être le terroriste qui a fomenté cet attentat. Il finira par être innocenté, mais sa vie a été ruinée.
Ces accusateurs sont deux des forces les plus puissantes du monde. Le gouvernement des États-Unis et les médias.
Je cherche vraiment à vous aider. On m'a élevé dans le respect de l'autorité.
L'autorité va vous bouffer tout cru.
C'est lui qui l'a fait.
Richard Jewell est innocent, c'est un héros. Vous êtes prêt à vous battre ?
Et là encore, on retrouve donc un héros qui se bat contre les institutions, un marginal oublié du système. Mais il ne faut pas croire qu'Eastwood est simplement un cinéaste conservateur qui ne parlerait que de héros conservateurs et d'une Amérique rurale. Il est en fait beaucoup plus ambivalent. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec mon invité, Jean-Louis Fabiani, auteur du livre Clint Eastwood aux éditions de La Découverte. Mais on va d'abord écouter un extrait de la bande originale du film Impitoyable, réalisé et incarné par Clint Eastwood, Claudia Stem, signée du même Clint Eastwood. Vous êtes à l'écoute de Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. Pour poursuivre notre récit aujourd'hui dans Clap autour du cinéma de Clint Eastwood, on est maintenant avec Jean-Louis Fabiani, sociologue, auteur du livre Clint Eastwood aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Alors il y a quelques minutes, je racontais comment Clint Eastwood avait portraituré l'Amérique profonde, conservatrice tout au long de sa carrière. Avec vous, je voulais maintenant qu'on mette un petit peu plus de nuances, parce que Clint Eastwood, c'est pas que ça.
Non, certainement. C'est même tout autre chose, tout en étant un petit peu ça.
Alors, dites-nous.
Alors, écoutez, Clint Eastwood, c'est quelqu'un qui, effectivement, est un libertarien et qui a peint l'Amérique presque invisible, celle qu'on ne voit pas dans les films de Hollywood, une Amérique pauvre, très souvent, une Amérique divisée, une Amérique qui a des difficultés. Et puis, bien entendu, de l'autre côté, il a, dans une veine très classique, fait des westerns, etc., qui, en apparence, ressemblent beaucoup aux westerns classiques, mais qui, dans le fond, disons, minent un petit peu le genre et vont beaucoup plus loin. Donc, Clint, c'est pour moi le cinéaste de l'ambivalence.
Oui, si on prend des exemples, par exemple, je voulais qu'on parle de Million Dollar Baby, là, on est clairement dans un manifeste pro-euthanasie, ce qui, en principe, n'est pas la position forcément classique des conservateurs.
Absolument, c'est même l'inverse. Vous savez que tant pour l'avortement que pour l'euthanasie, il y a une opposition des conservateurs qui peut même être violente. Donc là, on voit très bien comment Clint Eastwood détourne le problème. La référence au prêtre, par exemple, et aux discussions que le personnage a avec le prêtre sont des choses tout à fait remarquables, je pense, où l'on voit que Clint Eastwood comprend ses problèmes de l'intérieur et qui n'impose pas un jugement moral, mais qu'il, au fond, invite ses très nombreux spectateurs, puisque le film a fait un grand succès, à réfléchir sur cette question tout à fait dramatique et d'une façon qui est très différente, bien entendu, de la vision qu'en ont les conservateurs.
Alors pourquoi il a cette image-là ? Est-ce que c'est parce qu'il a souvent pris position en faveur des candidats conservateurs lors des élections présidentielles ou comment on explique ça ?
Alors, bien entendu, je crois que Clint Eastwood est un libertarien assumé, donc il est conservateur, il a appelé à voter Nixon, il a appelé à voter Reagan, il a appelé à voter pour le père et le fils Bush, et d'ailleurs pour le premier Trump. Pas pour sa réélection. Donc il est un républicain avéré, et je crois que ses opinions politiques ne le conduisent pas à exprimer un point de vue réactionnaire sur la société américaine. Si vous regardez The Mule ou les films récents, c'est aussi un point de vue critique. Il est à l'écoute, je crois, des vibrations de la société de son pays. Et à ce moment-là, il n'est plus du tout un idéologue, il est, je crois, presque un sociologue.
Parce que quand vous parlez de la mule, par exemple, où il incarne ce grand-père obligé de transporter de la drogue pour survivre, si je puis dire, selon vous, il veut raconter quoi ? Il veut raconter comment l'Amérique délaisse ses plus âgés, ses ruraux ?
Je pense que, d'abord, c'est un pied de nez d'un très vieil homme qui se moque... je veux dire, de ce qu'on impose aux vieux aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui a près de 90 ans, parcourt l'Amérique, hein, gagne de l'argent, s'amuse avec des jeunes femmes, etc. Donc c'est une espèce de pied de nez, disons, à l'ordre moral. C'est très, très étonnant. Et dans ce film même, il se moque même de la correction politique qui existe aujourd'hui aux États-Unis. Il ose se moquer d'une famille, enfin se moquer gentiment d'ailleurs, d'une famille afro-américaine qui a crevé au bord de la route. Il utilise le terme, vous savez, qu'il ne faut pas employer, nigger. Il se donne toutes les libertés. Alors je crois que c'est quelqu'un qui est d'abord un grand cinéaste et qui donc ne subordonne pas son art à un message idéologique.
Et c'est vrai qu'on a en tête beaucoup de héros masculins de Clint Eastwood, mais il a aussi fait des grands rôles féminins. Je pense par exemple à cette Mère Courage campée par Angelina Jolie dans L'Échange. Cela, on les a un peu plus oubliés, mais ils existent.
Bien entendu, mais ça, c'est un petit peu le regard dominant des spectateurs qui fait qu'on ne voit pas que Clint Eastwood, alors qui est effectivement le macho presque caricatural, avec une petite nuance, est un des meilleurs cinéastes pour des grands portraits de femmes. Alors on pense effectivement à Angelina Jolie, je pense aussi à Meryl Streep sur la route de Madison, je pense aussi à Geneviève Bujold, enfin il y en aurait plusieurs comme ça, un peu à contre-courant de Hollywood, qui continue, disons, d'avoir un regard très genré, comme on dit, sur les personnages. Eastwood donne leur chance, donne de l'épaisseur à ces personnages féminins, et il en fait quelquefois les héroïnes du film.
Et on a l'impression que récemment, il prend un malin plaisir à, apporte à l'écran des histoires de héros ordinaires. On pense au cas Richard Jewell, qui a permis d'éviter un attentat lors des JO d'Atlanta. On pense à cet attentat du Thalys. Enfin, on a l'impression que maintenant, c'est un peu devenu sa nouvelle marotte.
Tout à fait, tout à fait. On pourrait y ajouter le Sully avec ce commandant de bord, qui est un homme comme les autres, mais qui est quand même un héros de l'Amérique. Donc, y a toujours eu, chez Clint Eastwood, une fascination pour l'anti-héros, que ce soit Gran Torino, où là on voit c'est un vétéran de Corée, etc. Et dans le Carita Jewel et 3h17 vers Paris, on a aussi ce souci, au fond, de s'intéresser à l'homme ordinaire face à l'extraordinaire.
Et pour poursuivre cette réflexion, j'invite nos auditeurs à lire votre livre, Jean-Louis Fabiani, Clint Eastwood, aux éditions La Découverte. Et puis, il y a ce coffret aussi qui reprend les plus grands films de Clint Eastwood qui vient de sortir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Clap.
Je vous en prie.
Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de l'émission. Le temps d'accueillir mes collègues critiques et on va débattre des films sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes. Il sera notamment question d'Antoinette dans les Cévennes, de Malcolm et Marie, de La Vérité ou de Seules les Bêtes. Restez avec nous, à tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier.
Et c'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de Clap qui a accepté de répondre à notre questionnaire Les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Joël Dicker. Bonjour.
Bonjour.
On avait envie de vous recevoir parce que c'est pas tous les jours qu'on a dans ce studio le plus gros vendeur de livres de l'année 2020 en France. Près de 600 000.
Bah, j'ai fait un régime.
600 000 exemplaires de l'énigme de la chambre 622. Je suis obligé de vous poser la question puisqu'on est dans une émission cinéma. Ça va être adapté au cinéma, en série ?
Peut-être. Il y a de l'intérêt, mais vous savez, il y a souvent de l'intérêt pour beaucoup de projets. C'est-à-dire que encore plus maintenant, où il y a beaucoup de demandes de séries télé, où les plateformes ont besoin de contenu, et où au fond, les séries télé sont souvent basées ou inspirées par des livres, parce que les livres sont un bon format dans le contenu. C'était dur de faire un film en 1h30 de raconter un livre, mais une série, c'est parfait. Et donc, il y a beaucoup de gens intéressés. Ensuite, pour qu'un projet cinématographique ou de série, peu importe, se fasse, c'est souvent très long. Donc, on ne sait jamais très bien. Donc, je ne sais pas.
Probablement oui, mais on ne sait pas quand.
Peut-être. Comme je suis très superstitieux en plus.
Oui, c'est
voilà,
ça.
J'attends.
Et un autre livre, peut-être ?
Un autre livre à venir, oui, ça, j'y travaille.
Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Rien pour l'instant ?
Pour l'instant, pas grand-chose, parce que je travaille sans plan. Donc, c'est compliqué. Vous savez, c'est à la fois très plaisant et désarçonnant parce que mes livres sont assez gros. Il me faut 2 à 3 ans pour les écrire, pour arriver à écrire ces 650 pages. Et souvent, les gens les lisent en 2-3 jours. Et donc, j'arrive en dédicace quand le livre paraît, quand j'arrive dans des dédicaces après 1 semaine ou 10 jours de parution, des gens arrivent. Le livre est déjà lu. Et il me dit, c'était super, c'est quand le prochain ? Et je leur dis, mais laissez-moi le temps.
Laissez-moi le temps de respirer.
Mais en même temps, c'est très plaisant, évidemment, parce que c'est un rêve de me dire, voilà, ce livre, ce texte que j'ai écrit chez moi tout seul, de me dire que des gens l'ont attendu, l'ont dévoré, et viennent me demander de le signer maintenant, c'est incroyable.
Bon, alors en attendant, on va parler cinéma. Est-ce que vous êtes prêts pour notre questionnaire ?
C'est parti.
Votre premier souvenir de cinéma ?
J'aurais dit Rocks et Rookies de Walt Disney.
2, 3 Non, Rookie, tu as triché. Oh. On recommence. 1, 2, 3 4 5
Oh, c'est pas vrai. Ça alors. Un renard et un chien qui jouent ensemble.
Alors, je vous dis que c'est un souvenir de cinéma parce que je me souviens plus très bien du film, mais je me souviens de cette fascination pour la salle. C'était à la salle de l'Alhambra, qui était un vieux cinéma à Genève, qui est maintenant surtout utilisé comme salle de concert, avec des vieux sièges à l'ancienne et une atmosphère, un plafond immense, une atmosphère très particulière. Et je crois que j'avais été plus passionné encore par l'atmosphère, c'est-à-dire cette séance assise consacrée à ce film, que le film en lui-même.
Votre meilleur souvenir en salle, Joël Dicker ?
Mon meilleur souvenir en salle, j'ai plusieurs souvenirs très forts et j'hésite souvent entre un film où j'ai pleuré et un film où j'ai ri. Pourquoi ? Parce que pleurer est une émotion, je trouve, plus forte que le rire, parce qu'elle fait appel vraiment à quelque chose au plus profond de vous, qui vous définit, qui vous touche vraiment et qui révèle un peu qui vous êtes. Mais rire, quand on rit, quand on est ému de rire et qu'on c'est un sentiment tellement fort et tellement prenant. Et j'ai envie de mêler les deux et de vous parler de La vie est belle. Roberto Benigni, qui est un film que peut-être les gens citent souvent, mais qui pour moi unit un peu ces deux mondes.
Le monde du rire, c'est vrai.
Le monde du rire et le monde des larmes.
Alles hören, ich sage das nur einmal.
On commence le jeu. Les retardataires sont éliminés.
Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
Le premier qui obtient un total de 1000 points gagne un véritable char d'assaut.
Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
Nous, on joue le rôle des très très méchants qui aboient sans arrêt et qui donnent des ordres en hurlant. Ceux qui ont peur perdent des points.
Alles raus auf den Hof, aber schnell!
Ah, toutes les sucettes sont interdites. C'est pas la peine de réclamer, on n'en donne pas. On les mange toutes.
Et pardon d'être encore long, mais avec ce film, ce qu'il y a de très beau et que je regarde de temps en temps, c'est un film que j'ai vu beaucoup, mais dont je me souviens au cinéma, cette hésitation entre pleurer et rire. Et puis à un moment donné, on rit franchement et on pleure vraiment. C'est un film que j'ai ensuite souvent revu à la télévision chez moi. Et il y a une séquence que je me repasse souvent, c'est quand Roberto Benigni remporte l'Oscar du meilleur film étranger. Et ça, c'est une séquence qui me fait pleurer.
And the Oscar goes to...
Roberto!
Vous pouvez la voir sur Internet très facilement. Quand il monte sur les sièges...
Et qu'il exulte.
Et qu'il fait ce discours absolument extraordinaire. C'est quelque chose de très très fort qui vous prend au trip.
And also I would like to thank... My parents, they gave me the biggest gift, poverty, and I want to thank them for the rest of my life. Thank you, mama and papa.
Votre pire souvenir en salle, Joël Liker.
Mon pire souvenir en salle, c'est un film auquel je n'ai rien compris.
Ça arrive.
Mais j'ai un peu honte, parce qu'en même temps, j'étais heureux. Vous savez, il y a eu une petite réouverture avec Tenet de Christopher Nolan.
Une de ces balles est comme nous et voyage à travers le temps, en marche avant. L'autre va en marche arrière.
On aurait affaire à quoi ?
Au débris d'une guerre future.
Alors, je n'ai rien compris. Mais rien du tout. Et c'est très frustrant. Et Christopher Nolan est pour moi un des plus grands cinéastes actuels. Je crois malheureusement pour lui qu'il est arrivé à un tel niveau que parfois il y a une attente qui se construit autour de ça. Et peut-être que, alors j'en sais rien, peut-être qu'il essaye aussi de jouer sur l'attente. Mais du coup, j'ai revu juste après, dans ma frustration, j'ai revu Le Prestige.
Ah.
Un film extraordinaire.
Pour vous défrustrer.
Mais parce que Le Prestige, vous savez, au fond, c'est un film simple. C'est-à-dire, simple dans le meilleur du mot. Parce que c'est difficile d'être simple. C'est facile d'être banal. Tout le monde peut être banal. Mais être simple, c'est vraiment l'exercice le plus difficile qui soit. Et au fond, ce film est simple dans cette... Querelle, hein, c'est un film où deux magiciens s'affrontent l'un contre l'autre et ça va les mener. Enfin, c'est absolument incroyable. Mais en fait, le dénouement est facile à comprendre et c'est agréable parfois, quand même, d'avoir un film qui se comprend.
Le film que vous auriez aimé voir au cinéma ?
Alors, le film que j'aimerais voir et que j'espère que je verrai, pardon, mais je fais un petit clin d'œil ou un petit message face à la situation très difficile. J'attends patiemment, pas désespérément, j'attends patiemment de voir James Bond au cinéma quand il sortira. Et je crois que c'est ça que j'aimerais vous répondre, parce que j'aimerais dire aux gens, soyez patients. Ne soyons pas tentés d'avoir une sortie en plateforme comme ça a été le cas pour certains films. Attendons, soyons patients. Donc j'aimerais attendre, on a attendu ce film, on va l'attendre encore un petit peu. Et je crois que c'est un peu le signal de l'espoir dont on a besoin, c'est de dire, on est dans une situation pour toute la culture, mais en particulier pour les exploitants de salles de cinéma très difficiles. Pour eux, soyons patients.
Le passé ne meurt jamais. Comprenez que je veuille revenir dans la partie.
D'ailleurs, il était redécalé à la rentrée prochaine, ce qui est plutôt bon signe, puisque si on le décale, c'est qu'il y a toujours cette volonté de le sortir en salle.
Oui, donc on espère, c'est octobre, je crois, septembre ou octobre, là. On y arrive presque.
Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre, je vous le dis.
Comme ça, instantanément, je vous répondrai Last Action Hero. Moi, c'est un film que j'ai adoré. Et c'est un film qui explique toute la magie du cinéma, mais aussi de la lecture. C'est-à-dire que vous entrez dans un monde que vous créez vous et qui vous appartient à vous.
La vache ! Je suis sûre que c'est cette maison ! Les méchants sont à l'intérieur !
Et j'ai appris après coup, donc Last Action Hero, qui était un des derniers grands films de Schwarzenegger, grand film dans le sens budget très important au moment de sa gloire, c'est un des films qui a été un peu, qui a fait partie apparemment de son déclin. Hein, ce film dans lequel un petit garçon a un ticket de cinéma magique qui lui permet d'entrer dans le film. Et cette espèce d'aspect méta-film, hein, dans lequel il y a le film à l'intérieur du film, beaucoup de gens n'ont pas compris.
Tiens, je te donne ma plaque. Je crois que tu l'as bien méritée.
Non, je ne l'ai pas méritée.
Qu'est-ce que tu racontes ? Grâce à toi, cette affaire est résolue. C'est une révolution dans l'histoire de la police criminelle. Quand je pense à toutes ces années que j'ai passées à étudier le comportement humain, la psychologie du terroriste, l'analyse des empreintes, tous ces cours que j'ai suivis sur la filature, la criminologie, alors qu'il suffit de se balader au volant d'une voiture et de montrer une maison au hasard en disant « Les méchants sont à l'intérieur !»
Tu te trouves drôle, hein ?
Oui, extrêmement. Ne suis-je pas le célèbre comique Arnold Albert Schweitzer ?
Schwarzenegger !
À tes souhaits !
Et pour finir, la bande originale qui a marqué votre vie.
Il y en a beaucoup. Vous savez, je ne vais pas avoir honte de ce que je vais vous dire, parce que souvent, quand on est interrogé comme vous le faites, on a la première, il y a la réponse immédiate qui nous définit au fond. Hein. Et puis on hésite un peu, parce qu'on se dit, oh, attention, c'est Europe 1, c'est très sérieux, des gens vont me juger. Mais au fond, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. On est ce qu'on est, on n'y peut rien. Le Roi Lion.
Ah.
La bande originale du Roi Lion... C'est quand même quelque chose que j'écoute toujours. Le Roi Lion, c'est quoi ? C'est 95, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est toujours aussi extraordinaire. La
Laquelle
musicalité...
est votre préférée dans la bande originale du Roi Lion ? On va en écouter une en intégralité. Alors, donnez-moi votre préférée.
Avec plaisir. Je dirais Hakuna Matata.
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique !
Pour la ligne de basse qui accompagne Hakuna Matata et qui est... très très bien trouvé. Il y a quelque chose de très juste dans la section rythmique, mais avec cette batterie au balai toute douce comme ça, et la basse derrière, c'est très fort en fait.
Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique.
Ce mot signifie que tu vivras ta vie.
Ouais, j'en peux dire sans aucun souci.
Et voilà, Hakuna Matata dans Club sur Europe 1. Merci beaucoup Joël Dicker de nous avoir
Merci
rendu visite. Et donc votre dernier livre, L'énigme de la chambre 622. Bon, 600 000 exemplaires vendus, ça veut dire qu'il y a encore des millions de personnes qui ne l'ont pas lu. Donc on les encourage à aller l'acheter.
Avec plaisir. Et les autres aussi. pas mes autres livres, mais les livres de tout le monde. Lisez, allez au cinéma quand on le pourra, c'est important.
Merci Joël Dicker de nous avoir rendu visite dans Clap. Nous on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de votre émission cinéma. Le temps d'accueillir mes collègues critiques, on va débattre des films qui sortent en VOD, DVD ou sur vos plateformes. On parlera notamment d'Antoinette dans les Cévennes, de Malcolm et Marie, de La Vérité et de Seules les Bêtes. A tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et ils ont pris place autour de la table de ce studio. À ma gauche, Caroline Vier de 20 minutes. À ma droite, Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On a un gros programme encore aujourd'hui.
Je croyais qu'on avait un gros problème.
Aussi, mais ça c'est... Hein, voilà, quand est-ce que les salles vont rouvrir. Oui. Antoinette dans les Cévennes qui sort en DVD, VOD. La Vérité sur My Canal. Malcolm et Marie, ça c'est sur Netflix. Et Seules les Bêtes qui était passé relativement inaperçu au moment de sa sortie. Malheureusement, je trouve, et vous me direz ce que vous en pensez. Mais d'abord donc, parlons d'Antoinette dans les Cévennes.
Elle est où ta femme ?
J'ai aucune idée. Antoinette, je suis pas là la semaine prochaine. On part tous les trois dans les Cévennes.
Tous les trois ?
Non, pas toi, nous. Nous trois, avec Alice.
Une maîtresse ? Alice ! Ça alors, hein ?
Ça alors, c'est extraordinaire.
Je te demande une chose. Ne viens pas avec nous demain.
Avec Laure Calamy, la fameuse découverte dans la série 10% pour le grand public, qui joue donc Antoinette, institutrice, qui a la bonne idée d'être la maîtresse du papa d'un de ses élèves. Ça n'aide pas. Il s'appelle Vladimir, il est joué par Benjamin Lavergne. Alors depuis des mois, il lui promet une semaine de vacances ensemble. Mais à la veille de ce grand départ, Vladimir lui annonce finalement qu'en fait, il part avec sa femme et sa fille marcher dans les Cévennes, sur le chemin de Stevenson. Ben, ni une ni deux, Antoinette leur emboîte le pas. Elle loue, vous savez, un âne pour porter ses valises qui s'appelle Patrick, qui va l'accompagner sur ce chemin avec aussi son livre Voyage avec un âne dans les Cévennes, donc signé Stevenson. Voilà, il faut le dire, il y a des scènes assez drôles, puisque évidemment, les échanges entre l'âne et leur calami vont se révéler assez savoureux. Là, pour le coup, ça avait très bien marché en salle à l'époque. Caroline Vie, est-ce qu'on le revoit ou est-ce qu'on le voit tout court en DVD, VOD ?
Ah mais absolument, voilà un film plein de bonne humeur, leur calami est génial, Benjamin Laverne, je l'adore, mais surtout, il y a Patrick.
Patrick,
on l'aime.
Un César pour Patrick.
Absolument, Patrick, on a envie de le câliner, il est adorable. Enfin bon, plus sérieusement, le film est vraiment très drôle, c'est du concentré de bonne humeur et de soleil, c'est idéal en ce moment.
Oui, c'est vrai que là, pour se changer les idées, alors, Fabrice.
Ah non, j'ai pas de mais du tout sur le film, j'ai adoré. Mais c'est pas une comédie, Antoine dans les Cévennes. Ça n'est pas qu'une comédie. Oui. En tout cas, c'est un film beaucoup plus profond. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la scénariste et réalisatrice du film a réussi à planquer des thèmes assez profonds dans un feel-good movie qu'on regarde avec un bonheur insensé, surtout en ce moment. Oui, moi, je vous conseille de le revoir. Mais ça interroge plein de choses sur l'amour, sur la situation de la femme, sur la situation de l'âne aussi. C'est très important et on n'en parle pas assez.
C'est vrai, absolument.
Plus sérieusement, il y a plein de choses qui se passent dans ce film. C'est une sorte de road movie beaucoup plus intelligent et finaux qu'on ne le croit.
Il ne faut pas s'arrêter, notamment la bande-annonce qui était bien faite, mais qui était très axée comédie, et le film n'est pas que ça.
Alors le film a vraiment bénéficié de sa sortie à un moment où effectivement il y avait peu de choses, et ce serait bien qu'il continue sur la voie du succès, parce que ça a été un petit peu tronqué par évidemment la fermeture des salles. Franchement,
Mais 1 million d'entrées, c'était quand même totalement inespéré pour le film, et totalement...
Et puis c'est formidable de voir Laure Calamy enfin dans un rôle de cinéma où elle a la vedette.
Parce que sinon Laure Calamy est quand même dans tous les films français en ce moment. D'ailleurs, on va en parler
dans Seuls les Bêtes.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'elle joue quand même dans ce film-là le personnage qu'on lui connaît, notamment dans 10%. Oui. C'est-à-dire que nos auditeurs qui la connaissent dans 10%, qui n'ont pas encore vu le film, ne vont pas être dépaysés. Et s'ils aiment son personnage de 10%, je pense qu'ils l'aimeront dans le film.
Oui, mais elle a tourné d'autres films qui sortiront on ne sait pas quand et dans lequel elle montre une autre palette. C'est une actrice, là aussi, beaucoup plus intéressante et riche qu'on ne le croit.
Voilà, Antoinette dans les Cévennes, c'est facile. Vous trouvez ça en DVD ou en VOD le soir. Vous louez ça pour quelques heures, ça coûte 4-5 euros et vous passerez un bon moment. Deuxième film dont je voulais qu'on reparle, les amis, ça s'appelle La Vérité. C'est sur MyCanal avec notamment Catherine Deneuve et Juliette Binoche.
Quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN ?
Ah, en France, je vois vraiment personne.
Vous avez la visite, je vais peut-être vous laisser alors.
Non, aucune importance. C'est ma fille avec sa petite famille.
Maman ? Ça va commencer, là.
Évite de m'appeler maman, ici.
Bah, comment veux-tu que je t'appelle ?
Tu devrais prendre un peu plus de soin des gens qui t'entourent.
Je préfère avoir été une mauvaise mère, une mauvaise amie et une bonne actrice.
Avec cette question qui sous-tend le film, quelle est la part de vérité dans le jeu d'un acteur ou d'une actrice ? Alors, Catherine Deneuve s'est signée Kore-eda, c'est le premier film du maître japonais en langue française. Catherine Deneuve joue un rôle qui lui ressemble, celui de Fabienne, grande actrice française, qui veut sortir son autobiographie, qui sort d'ailleurs son autobiographie. Sa fille, qui s'appelle Lumière, qui est incarnée par Juliette Binoche, rentre alors des États-Unis pour l'occasion et découvre que dans ses mémoires, sa mère raconte sa vérité, mais bien loin de ce qu'elle estime être la vérité. En parallèle, Fabienne joue dans un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d'une mère qui reste éternellement jeune. Donc voilà, tout ça va s'entrecouper. Pour le coup, presse assez critique au moment de la sortie. Moi, j'avais trouvé que le duo fonctionnait merveilleusement bien et que rien que pour voir ces deux femmes ensemble dans un même film sur grand écran, ça valait le coup. Fabrice.
C'est le film qui a été fait pour uniquement de mauvaises idées, voilà, de bonnes intentions, mais de mauvaises idées. Pourquoi ? Parce que Kore-eda qui vient faire un film en France, et Dieu sait si on aime, et moi j'adore le cinéma de Kore-eda, grand observateur de la famille, de tous les liens, tous les non-dits. Ce qu'il fait là encore, d'ailleurs, c'est une photocopie de son film qui s'appelle Still Walking. Oui. C'est exactement la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va prendre Catherine Deneuve, évidemment, puisqu'il regarde Catherine Deneuve avec un amour de cinéma totalement infini. On va prendre aussi Juliette Binoche, parce que ça fait bien sur l'affiche. Mais malheureusement, il n'y a pas de film. Où est passé la maestria de Kore-eda ? Où est passée la finesse de Kore-eda ? Alors oui, on est dans des rapports familiaux, dans un film, est-ce qu'il est testamentaire ou pas ? Voilà, il y a plein de questions qui se posent, il n'y a aucune question qui n'est résolue. Ça part parfois dans les danses, dans Paris, les sourires aux lèvres. Enfin, voilà, c'est... Non, mais voilà, Kore-eda vient tourner à Paris. Voilà, ben, il aurait dû y avoir un scénario, ça aurait était peut-être un peu mieux quand même, je trouve.
Caroline Vier.
Alors, il y a un petit côté exotique à la japonaise. Là, je vous rejoins tout à fait. On sent bien qu'il est content d'être à Paris, qu'il est content d'avoir des actrices françaises. Il est très apprécié en France, Kore-eda. Ah, oui. Et il aime la France l'aime, tout ça. Je suis moins sévère que vous, oui. Je me suis quand même amusée. Voilà. Ah, oui. Je trouve que les deux actrices s'amusent, que ça se sent, qu'il y a une véritable complicité. Là, ça parle. Ça, c'est une famille d'actrices, mais ça pourrait être n'importe quelle famille. C'est un film léger. Il ne faut pas chercher plus que ça.
C'est pas léger.
Ah, moi, enfin... je me suis vraiment amusée. J'ai trouvé
Mais je pense qu'on a voulu lui donner trop de sens à ce film.
La solitude de la femme et la solitude de l'actrice qui habite à côté de la prison de la santé pour bien montrer qu'on peut être prisonnier ou actrice et être dans un univers carcéral.
Bah, nous, on n'est pas assez intelligents. Nous,
je savais que vous n'étiez pas assez intelligents.
Je le revendique. Je revendique mon manque d'intelligence. Je me suis contentée de m'amuser assez sottement.
C'est toujours pareil dans tout ce qu'on voit. Voir un duo d'actrices aussi fameuses s'amuser, mettre un peu d'elle-même, parce que forcément, on sent que dans leur interprétation, il y a des choses qui viennent de leur propre existence.
Il y a un Kore-eda, Catherine Deneuve et Juliette Binoche, on attend quand même un minimum de niveau. Enfin, on est quand même dans le up. On est sur vraiment le haut du panier.
Mais le problème, c'est que très souvent, la somme de talents des gens ne se multiplie pas à l'écran. Là, c'est effectivement le cas.
Oui, on ne dit pas que c'est le plus grand film de l'année.
C'est pas le plus grand film d'aucun d'entre eux. Et, ni de Deneuve, ni de Binoche, ni de Kore-eda. Mais ça donne une comédie qui, moi, m'a réellement amusé. J'ai passé un très bon moment, ce qui est déjà pas si mal.
La vérité sur MyCanal. On a aussi parlé d'Antoinette dans les Cévennes en DVD, VOD. Vous restez avec nous. Dans quelques minutes, on se retrouve et on débattra de Malcolm et Marie sur Netflix et de Seules les bêtes, que je vous conseille d'ores et déjà de voir. On verra si mes camarades sont d'accord. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier.
Clap, dernière partie de votre émission cinéma. On débat aujourd'hui avec Caroline Vier de 20 minutes, Fabrice Leclerc de Paris Match. On a parlé de La Vérité, d'Antoinette dans les Cévennes. Et je voulais maintenant qu'on dise un mot de Malcolm et Marie qui arrive sur Netflix.
Tu es de loin la femme la plus insupportable, la plus difficile, la plus obstinée et odieuse que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime.
Tu veux que je te dise, Malcolm ? J'ai l'impression qu'une fois que tu sais qu'une personne est là pour toi, qu'elle t'aime, tu penses plus vraiment à elle. C'est seulement quand t'es sur le point de la perdre que tu recommences à t'y intéresser.
Voilà un nouveau film Netflix, puisqu'ils en font de plus en plus, filmé en noir et blanc. Nous avons donc Malcolm, jeune réalisateur, qui revient de l'avant-première de son dernier film. Tout le monde a adoré, il va enfin avoir la reconnaissance qu'il mérite. Et alors qu'il s'apprête à passer une soirée festive avec son amoureuse Marie, elle lui annonce qu'il a oublié de la remercier dans son discours. Ça arrive, la gaffe est d'autant plus grosse que le film s'inspire de la vie de Marie. C'est l'histoire d'une jeune actrice toxico qui arrive à remonter la pente. Début d'une très longue soirée d'explications, entre disputes violentes, réflexion évidemment sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'art. Caroline Vier.
Ça crie beaucoup, pour mon goût personnel. C'est-à-dire qu'à un moment, j'aurais bien aimé que ça crie un peu moins. Alors, Zendaya et John David Washington, le fils de Denzel, sont tous les deux très très bien. Pour moi, c'est pas raisonnable que ça dure si longtemps et que ça crie autant. Même s'il y a des tas de choses passionnantes, il y a notamment toute une réflexion sur la place des Noirs dans l'art et dans le cinéma américain. C'est plein de bonnes petites choses. C'est tourné pendant la pandémie. Ils sont tous les deux très beaux. S'ils pouvaient parler un peu moins fort, je crois qu'il y a quand même des moments où j'aurais été moins fatiguée.
Fabrice, que répondre à ça ?
Alors, que répondre à ça ? Moi, c'est un film qui, plastiquement, m'a assez halluciné, réalisé par Sam Levinson, qui n'est autre que le fils de Barry Levinson, qui avait fait, entre autres, Good Morning Vietnam ou Rain Man, donc voilà, quand même.
Fils d'eux ne veut pas dire qu'il a le talent de son père.
Ouais, bah là, je trouve qu'il y a du talent dans la famille, parce que quelle mise en scène...
C'est John David Washington aussi.
Alors, quelle mise en scène ? John David Washington montre enfin qu'il a quelque chose à jouer après Tenet, parce que moi, dans Tenet, je l'avais trouvé très fade, et là, il est assez extraordinaire.
Il était très bien chez Spike Lee aussi.
Oui, Black Panther et Zendaya, dont on ne cessera de dire quelle grande actrice. Je suis d'accord, c'est beaucoup trop long. Je suis d'accord, c'est beaucoup trop nombriliste. Je suis d'accord, c'est un petit côté Sofia Coppola version mec, un peu fastoche.
Mais je regarde
deux acteurs quand même en suspension, un metteur en scène qui les suit, tourné pendant le confinement en 20 jours dans une seule maison. Oui, ça a tous les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. Je suis totalement d'accord avec vous, Caroline. Pourtant, moi, je trouve que c'est quelque chose d'étonnant.
Voilà, je trouve que c'est à voir. En tout cas, c'est une vraie curiosité.
Ouais. Et j'ai vraiment découvert pour le coup un metteur en scène, Sam Levinson, qui est à l'origine de la série Euphoria, dans laquelle joue Zendaya. Il faut
oui, elle a, il a écrit pour elle. D'ailleurs, c'est elle qui lui avait demandé oui. d'écrire, de lui écrire quelque chose pendant que la série était interrompue par la pandémie.
Et c'est inspiré d'une soirée où Sam Levinson avait montré son premier film en tant que réalisateur. Il avait oublié de citer sa femme dans le discours, je vous jure.
Oui, sa femme qui était en même temps sa productrice, qui s'était beurrée de lire les versions du scénario et de corriger les bêtises. Elle n'était pas qu'enchantée, dirons-nous.
Malcolm et Marie sur Netflix, vous remarquerez quand même que ces dernières semaines, on dit beaucoup, beaucoup de bien de tous ces films qui sortent sur Netflix. Comme quoi, au-delà d'être une plateforme qui sort des films, ils en choisissent et sélectionnent et produisent et achètent bons.
Encore une fois, Netflix est en train de produire tout le cinéma indépendant que Hollywood produisait, ça fait 10 ans.
Absolument.
Et dernier film, les amis, dont je voulais qu'on débatte aujourd'hui, ça s'appelle « Seules les bêtes » et ça débarque sur Canal.
Il y a une femme qui a disparu.
Ah bon, ça ?
On recherche encore la femme de Guillaume Ducas. Voulez-vous poser des questions sur Evelyne Ducas ?
Vous l'aimez, votre mari ?
Oui.
Alors vous ne risquez rien.
Alors, je vous préviens, au premier abord, c'est un film qui peut paraître étrange, mais pourtant il est terriblement séduisant, notamment par son procédé. Je vous explique. Après une nuit de tempête de neige, une femme est retrouvée morte, sa voiture garée au bord d'une petite route de montagne. On comprend vite que 5 personnes sont liées de près ou de loin à cette disparition. Il y a un éleveur bovin, sa femme, un jeune Africain qui séduit les hommes en se faisant passer pour une jeune femme sur Internet afin de leur extorquer de l'argent. Une jeune et jolie jeune femme aussi, justement. Et on va revivre les dernières heures avant le drame, je ne veux pas trop vous en dire, mais du point de vue de chacun de ces personnages pour essayer de se comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. C'est très bien fait. Moi, je trouve ça très, très intriguant et jusqu'au bout, j'étais scotché devant l'écran. C'est signé Dominique Moll. Fabrice.
Alors, Dominique Moll a beaucoup de savoir-faire. Il avait fait Harry et un ami qui vous veut du bien, Le Moine, d'autres films. J'adore le système qu'il met en place au début, adapté du bouquin. Les points de vue, c'est un peu un fait entrer l'accusé à cinq, en split screen. Tous les acteurs sont parfaits. Denis Ménochet, on ne dira jamais assez quel grand acteur
dans
français
ce rôle
totalement
de paysan,
sous-estimé.
Qui se laisse séduire.
Laure Kadamy, qui donc, comme je le disais tout à l'heure, dans tous les films français actuellement. Après, je trouve qu'au bout d'une heure, le film part totalement dans autre chose. C'est-à-dire qu'on oublie ce système, justement. On oublie le système. On se concentre sur le personnage de l'agriculteur qui est joué par Denis Ménochet.
Parce qu'il centralise pas mal de choses.
Oui, mais il va essayer d'aller comprendre ce qui s'est passé et de se venger. Mais je ne comprends pas pourquoi le film part au bout d'une heure. Pourquoi le film oublie tout son système, toute son écriture pour partir dans quelque chose, oui, qui est intriguant, mais qui, moi, m'intéresse moins. Voilà, j'ai très, très déçu par la deuxième partie du film, donc je suis un peu, un peu mi figue, mi raisin.
Caroline,
coussi, coussa, quoi.
Moi, je vais faire ma ravie de la crèche, puisque j'ai tout aimé aujourd'hui, ou presque.
Bah, c'est très bien.
Franchement, j'ai adoré ça. J'ai été intriguée, j'ai été séduite. Je me suis laissée prendre par l'histoire de façon incroyable et par son dénouement.
Parce qu'au début, on se demande un
peu
où on
va, quand
même.
Qui m'a réellement surprise. Oui, j'étais vraiment surprise par l'endroit où ça va, que je n'ai évidemment pas révélé. J'ai un faible que je n'ai jamais caché pour Denis Ménochet, qui est toujours bouleversant, toujours juste, toujours
grand acteur.
Excellent. J'aime beaucoup la mise en scène de Dominique Moll, qui ne tombe jamais dans le misérabilisme, alors que ça pourrait être très très facile. C'est un film qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, j'espère qu'il va être redécouvert, vraiment. Et j'adore ce titre. Seules les bêtes, ça me fait rêver rien que de voir le titre.
Alors, on adore ce titre, mais moi, c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas très clair et que c'est peut-être aussi une partie du non-succès de ce film.
Oui,
parce
mais
que,
il
sincèrement,
est intriguant à l'image du film.
C'est vrai.
Oui, est-ce qu'il faut être intriguant dans un titre de film ? C'est une question, je ne pense pas qu'on va essayer de la résoudre aujourd'hui.
Vu le succès du film, probablement pas.
Vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il y a quand même
ça ne me dérange pas.
Il y a deux films en un,
absolument.
Et il y a une promesse de la première heure.
Non, mais c'est qui part
totalement à volo dans la deuxième partie.
Sur la deuxième partie, on s'attache plus au destin d'un personnage. Je ne veux pas trop en dire, mais.
Mais ce n'était pas le propos du film.
Oui, mais on va comprendre que c'est lui qui est au cœur de pas mal de choses quand même dans le film.
Bien sûr, mais.
Ce n'est pas totalement illogique qu'à un moment il
s'arrête
sur lui.
Pour moi, ça marche parfaitement. Justement, ce pivot marche parfaitement.
Bon,
écoutez, vous
savez quoi ? Les auditeurs vont aller regarder Seules les bêtes sur MyCanal ou en
VOD. De toute façon, ils passeront un excellent moment, intriguant, quoi qu'il arrive.
Et vous nous dites. Vous nous laissez des messages.
Ce qu'ils en pensent. Seules les bêtes. On a aussi parlé de Malcolm et Marie sur Netflix, de La Vérité sur MyCanal et d'Antoinette dans les Cévennes en DVD. VOD, Fabrice Leclerc, Paris Match, Caroline Vier, 20 minutes. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Clap, réalisé par Nicolas Baudin, préparé par Marjorie Adelson. Clap que vous retrouvez évidemment en podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve samedi prochain, 14h, 15h sur Europe 1.
Europe 1.